va nous arriver un truc. Un truc énorme.
On est en pleine délinquance juvénile.
J'ai décidé d'éteindre la télévision cet après-midi pour m'aventurer dans les rues moites puisque c'est l'été.
Radio Campus.
On est des artistes, des futurs stars.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Radio Campus Orléans, c'est maintenant l'heure de parler cinéma et je ne suis pas toute seule comme d'habitude, j'ai une petite équipe, vous êtes deux à m'accompagner ce soir et donc je dis bonsoir à Gob.
Bonsoir Céline, bonsoir auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver après une petite pause, un petit peu plus longue que prévu.
Oui, mais tu es là ce soir, c'est le principal. Et donc, il y a Claude, je sais, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, mais bonsoir quand même.
Oui, avec ta voix cassée, et j'espère que ça va aller, que ça ne va pas empirer ton état. Et donc, nous sommes là pour parler de cinéma et juste avant, je fais une petite introduction pour donner quelques dates dans notre agenda cinématographique, des projections organisées par des associations ou des structures culturelles. Et je vais donc vous parler de la prochaine projection organisée par l'association La Bande de l'écran. Il s'agit d'un documentaire, car nous sommes toujours au mois du film documentaire. Et c'est le documentaire Jungle de Louise Mutz, qui sera donc projeté au Musée des Beaux-Arts le dimanche 27 novembre, donc ce dimanche 27 à 15h. Et donc ce film est un premier film de cette réalisatrice française, Louise Mutz, qui filme un groupe d'amis, d'amis femmes. Et c'est très intéressant comment elle filme ses amis de très très proches. Elle a forcément une proximité avec elle, une intimité avec elle qui procure du coup au film une très grande réalité et des discours très, très crus, crash, mais qui donnent aussi une autre vision de notre société. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce film, sa façon, sa réalisation, toutes les images de nuit sont vraiment incroyables. Et je pense que c'est une réalisatrice à suivre. Donc, voilà, rendez-vous au Musée des Beaux-Arts ce dimanche 27 à 15h pour découvrir ce film. Et toujours pour le mois du film documentaire, il y a donc d'autres structures qui organisent des projections. Et il y a donc notamment la médiathèque d'Orléans qui organise une séance donc jeudi 24 novembre, avec le documentaire Spectre, Sanity, Madness and the Family. Un documentaire de Parawan qui sera donc projeté à 18h30 à la médiathèque d'Orléans. Et ensuite, dans les dates à retenir, on continue. Vendredi 25 novembre, ce sera à La Ferté-Saint-Aubin, à la bibliothèque, pour la projection du film Musical Journey on the Silk Road de Sylvain Liard et Mathieu Sauvêtre. Projection à 20h30. Et puis, oui, il y a encore plein de projections à venir. Enfin, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez retrouver les dates, elles sont toutes indiquées sur le site internet moidudoc.fr. C'est un événement national, donc vous avez les projections de partout en France. Et donc, il suffit juste de rechercher celles organisées à Orléans et autour d'Orléans. Et donc, il y a oui, d'autres projections samedi aussi, samedi 26, à la médiathèque d'Orléans à 15h30 avec le documentaire Dans les bois de Mine Dogas sur Villa. Projection en présence de Vincent Régnier, qui est ingénieur du son et aussi très actif dans l'association Sans Soleil. Donc, ce sera certainement une rencontre très intéressante autour du film. Voilà, je m'arrête là pour les dates, mais il y en aurait tellement encore à dire. Voilà, il faut choisir. Et bien, après donc cet agenda, nous pouvons commencer à parler des films encore à l'affiche. Et enfin, celui-là, je suis plus sûre s'il est encore à l'affiche. Si tu me dis oui.
Oui, je te confirme.
Parce qu'on va commencer donc à parler ou à reparler de Io.
Voilà, donc Io qui est maintenu par les CARM pour deux séances supplémentaires alors qu'il devait s'arrêter.
Super.
Ce qui est très bien. Voilà, bah, vous aviez bien parlé du film la dernière fois qu'on était tous les trois ensemble ici. Moi, je voulais juste rajouter, en reparler un tout petit peu parce que j'ai adoré ce film, vraiment. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Skolimowski, ouais, ce cinéaste polonais qui a 80 ans maintenant, quelle vitalité, quelle beauté. Voilà, c'est un poème visuel. Claude, tu nous parles souvent que tu aimes voir des films visuels, des vrais films de cinéastes. Là, on est face à un grand film de cinéaste. Il y a des séquences oniriques absolument sublimes. Il use de moyens modernes pour tirer de tout ça une poésie intemporelle. C'est bourré d'idées de mise en scène. On voyage avec cet âne. On est vraiment à haute. Des fois on dit à hauteur d'homme, mais là on est à hauteur d'âne et on ressent les choses. Des fois il utilise des choses toutes simples. Il y a des scènes très fortes qui sont toutes simples et où il fait passer des trucs très forts. Avec un minimum de moyens, ça c'est très très impressionnant. Voilà, on est. Et moi, il y a quand même une chose dont vous aviez pas parlé et qui moi m'a vraiment séduit et marqué. On en avait parlé avec Fabien que je salue au passage quand on était sorti de la projection. C'est que en fait, il traite les personnages humains et les scènes humaines. On pourrait penser qu'elles sont un petit peu moins bonnes, qu'elles sont un peu moins fortes et un petit peu moins réussies que le reste. Mais je pense que tout ça est profondément calculé et que justement, tous les personnages humains et les situations mettant en scène les personnages humains sont là, sont plus âpres, plus rêches, moins visuellement fortes et réussies, mais parce que justement, il veut vraiment bien séparer les humains des animaux et nous faire ressentir encore plus, comme tu disais Claude, la suffisance et l'insignifiance des êtres humains et leur à quel point ils peuvent être nuisibles au reste de l'humanité. Et ça, pour ça, j'ai trouvé que le film était d'une grande intelligence à ce niveau-là. Voilà. Et pour le reste, bon voilà, moi c'est vraiment, je suis sorti ému comme je l'avais pas été depuis longtemps. Ça c'est un signe. Et il y a un autre signe, c'est qu'à la fin de la séance, les gens sont restés un moment assis sans parler. Et ça ne trompe pas. Parce que la dernière fois que j'avais vu ça vraiment à ce point-là, c'était en sortant d'Elephant Man en 1980. Donc tu vois, ça remonte un petit peu. Donc quelle émotion et quelle beauté.
Oui, effectivement, c'est un très grand film et surtout à voir au cinéma pour la qualité esthétique du film qui est incroyable dans sa recherche.
Ne vous dites pas, je le verrai à la télé sur Arte dans 2 ans.
Il faut vraiment être en immersion et une salle de cinéma est vraiment l'idéal pour découvrir ce film.
Il n'y a qu'une chose que j'ai eu du mal à comprendre, c'est la scène du pont.
Sur le barrage.
Sur le barrage. Tu peux m'expliquer, Gob?
Resitue-moi, Claude.
C'est vers la fin du film, oui. Sur le parcours de l'âne quand il est tout seul.
Oui.
Quand
oui.
il se
sur le pont.
Quand il veut retrouver, en fait, oui. ça, je suppose, oui. une de ses maîtresses, enfin sa maîtresse, enfin, je sais pas comment dire. Mais du coup, il part tout seul et il est sur un barrage à un moment donné. Il passe sur un barrage et il y a une division de l'image en trois, j'ai l'impression.
Oui, je vois ce que tu veux dire, oui.
Et ça, j'ai...
Bon, après, je ne sais pas, est-ce qu'il faut forcément chercher absolument une signification ? Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'à un moment, c'est un moment où peut-être son destin est en train de se jouer, ou voilà, je ne sais pas. Je t'avoue que ça ne m'a pas vraiment posé de problème. Moi, j'ai été, comme disait Céline, j'ai été en immersion dans ce film, j'ai été porté... Par la poésie et par la beauté des images. Et du coup, je me suis pas vraiment... peut-être qu'à un moment, j'aurais pu me poser des questions, mais je crois que j'en étais pas au stade de me poser des questions, en fait. J'en étais plutôt au stade de me laisser porter par la beauté de l'objet filmique. Voilà.
Mm-hmm. Alors, puis, mais j'arrête. Ce qui est très adroit... C'est qu'il ne tombe pas dans l'anthropomorphisme qui était le piège à éviter et il l'a évité. Quoi.
Alors le film est très loin de ça.
Oui, très loin.
Ah, oui.
Voilà. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice IO.
Oui.
Merci.
Allez voir ce film. Même si moi j'ai eu beaucoup de difficultés. Hein. Faut quand même y aller avec. En sachant que c'est un film qui n'est pas facile.
Non.
Mais il traite ça, c'est quand même traité avec beaucoup de j'ai trouvé que c'était traité avec beaucoup de délicatesse et il y a même des choses qui auraient pu être beaucoup plus dérangeantes sont traitées. Je pense qu'il use beaucoup plus de la suggestion. Il y a un travail formidable sur le son,
mais justement sur la suggestion.
Voilà, la suggestion c'est souvent beaucoup plus forte que
les images.
Mais
images, ouais.
Voilà, c'est je pense que c'est ça, du coup c'est quand même visible, je pense, par un public plus large, parce que même si la suggestion est dérangeante, je pense qu'elle l'est quand même moins qu'une accumulation d'images choc.
Je suis d'accord. Eh bien, merci Gob. Et donc, pour la prochaine chronique, on va appeler Claude. Viens au micro, Claude.
Oui. Viens te coller au micro, Claude.
Pour bon parler
de
Aria Ferma, est-ce que tu veux...
Oui. Alors, Aria Ferma, il y a eu une première la semaine dernière au Carme, en présence du réalisateur...
Monsieur Di Constanzo.
Voilà, qui a appris le cinéma, il vient du documentaire, et il a appris le cinéma en France, aux ateliers Varan. Bon, moi, j'ai énormément aimé ce film. Alors, le pitch, il est très simple. Hein. Il y a une prison qui doit être déménagée. Et puis finalement, à la dernière minute, il n'y a pas assez de place et il y a 12 prisonniers qui restent. La cuisine, il n'y a plus de cuisiniers et les détenus font la grève de la faim parce que la bouffe venant de l'extérieur est dégueulasse. Donc, on décide de rouvrir, je fais rapide, hein, on décide de rouvrir la cuisine et de confier à un des détenus la cuisine, parce qu'il a été cuistot. Et là, moi, je peux vous dire que c'est un garçon qui met une mise en scène où il fait monter la tension, l'intensité dramatique, uniquement de par les images. Il n'utilise pas la musique. Il y a une scène dans la cuisine. À un moment, on ouvre le placard au couteau. Il y a un jeu de regard entre les deux acteurs. On est sous tension. Qu'est-ce qui va se passer ? Uniquement d'après les images. Et ça, c'est très rare. Parce que bon nombre de réalisateurs ont reconnu une musique. Ça y est, la trouille monte. Et là, pas du tout. De par les images. Ça, je trouve que c'est excessivement réussi et très bien fait. Puis, il y a une portée philosophique aussi.
Claude, tu parlais des acteurs. Oui. Moi, j'ai pas vu le film, mais je sais que le film est interprété par deux acteurs majeurs du cinéma italien, qui sont Silvio Orlando et Tony Servillo,
voilà,
qui sont deux acteurs exceptionnels. Donc, forcément, quand tu as deux acteurs aussi comme ça...
Ah oui. Ah, c'est, pour moi, c'est un film à montrer dans toutes les écoles de cinéma. C'est jeu de regard, mais c'est... Et moi, j'ai parlé avec lui, mais je dis, Ça se joue à la seconde près, votre film. Il me dit non, pas à la seconde. Je suis à la quart de seconde. Je mets une seconde de trop, c'est foutu. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et puis, il y a une portée philosophique aussi sur la rédemption, sur ils sont 12, est-ce qu'on pense aux 12 apôtres, enfin, c'est un film, moi, qui est extrêmement intéressant. Alors, malheureusement, il va passer que deux fois. Donc, je vous donne les dates. Il va passer...
samedi.
Il va passer... mercredi, ce soir, à 21h, dépêchez-vous.
Et samedi.
Et samedi, pour la dernière séance, à midi.
Voilà. Ah oui.
Moi, je trouve ça...
Débrouillez-vous avec ça.
Séance.
Moi, je trouve ça déplorable, parce que c'est un grand film, je veux dire, c'est... Bon, on
oui.
en est là.
Oui, oui, mais c'est pas nous qui programmons, c'est pas nous qui... ce sont voilà, les exploitants, donc on peut pas... On peut rien faire. Donc effectivement, notez bien les dates pour voir ce film. Effectivement, elles sont très rares. Très bien. Tu veux dire d'autres mots
non,
sur
non,
ce
non,
film
non,
qui
non,
donne
non.
très envie.
Tu en as très bien parlé, Claude.
Et eh bien, avant de passer à la troisième chronique, ce sera donc on va parler du film de James Gray, Armageddon Time. Je vous propose d'écouter un morceau de la bande originale qui a été composée par Christopher Spellman.
Très belle bande originale.
Très bien. Et bien voilà, je vous propose de découvrir ça en musique et on se retrouve tout de suite après. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM et nous venons d'écouter un morceau de la bande originale du film Armageddon Time, donc le dernier film de James Gray, que donc Gob a pu découvrir au cinéma et tu vas donc nous en parler. Est-ce que tu es le seul à avoir vu le film ?
Armageddon Time, c'est le dernier film en date de James Gray, comme un des plus grands réalisateurs américains contemporains. Voilà, faut se rappeler que c'est quand même un monsieur qui nous a fait The Immigrants, qui nous a fait Ad Astra, qui nous a fait Lost City of Z, ouais. Qui nous a fait Little Italy, voilà, enfin bon, Little Odessa, pardon, et c'est vraiment un des plus grands réalisateurs américains contemporains. Et là, en fait, il a choisi de traiter pour la première fois dans sa carrière un sujet largement autobiographique, puis qui parle de sa propre enfance. Et de l'amitié qu'il a eue quand il était au collège avec un jeune garçon de couleur et la manière dont... Alors voilà, moi je vais pas vous raconter l'histoire si vous le découvrez, mais on va dire que le destin va influer de manière dramatique sur l'amitié de ces deux enfants. À savoir que lui, il est donc originaire d'une famille de juifs ukrainiens. James Gray est aussi le personnage dans le film. Et que cette famille, à un moment donné, pour le faire réussir scolairement, parce que c'est un garçon un peu fantasque et qui lui rêve déjà plus d'une carrière artistique que de réussir que d'être banquier ou commerçant. Et donc ils vont l'envoyer dans un collège, privé, plein de petits garçons de bonne famille républicaine. Des petits fachos propres sur eux qui sont racistes et méchants, et donc il va être confronté à, et il va avoir le soutien et le concours de, d'un personnage extraordinaire qui est le personnage de son grand-père, qui est joué par le grand Anthony Hopkins, qui est magistral dans le rôle. Et voilà, donc c'est un film, il se passe pas forcément énormément de choses, c'est du James Gray, il prend son temps. Il étire les séquences, il fait naître l'émotion de petits riens. Tout ce qui se tourne autour de la famille est très très juste. Il y a des scènes de réunions familiales autour de la table et tout qui sont, on a l'impression d'être au milieu de ces gens, d'être à table avec eux. C'est extrêmement bien écrit. Les acteurs sont tous très bons. Il y a Anna Tawai qui est remarquable dans le rôle de la mère de famille. Voilà, c'est un film très émouvant. Il fait naître l'émotion petit à petit avec James Gray, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de gros effets, mais l'émotion s'insinue petit à petit. Et à la fin, bah, on a les larmes aux yeux avec rien. Et puis voilà, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement élégant, quoi. C'est toute une tradition d'un grand cinéma américain, James Gray. Et voilà, c'est l'élégance totale, c'est le classicisme parfait. C'est des gens, souvent Claude il nous parle de leçons de cinéma, mais voilà, c'est des gens qui savent, qui font un cinéma d'une grande élégance, d'une grande simplicité, mais qu'on pourrait étudier sans problème dans n'importe quelle école de cinéma. Donc voilà, du grand cinéma américain, romanesque, émouvant, qu'on ne saurait que trop conseiller à tout cinéphile digne de ce nom.
Donc encore en ce moment en salle, donc n'hésitez pas à aller voir donc, le dernier film de James Gray. Et donc, Claude, tu souhaitais intervenir? Oui, tu m'as... Non,
Claude
tu m'as
approuve.
Pas entendu. D'accord. Ok, eh bien oui, donc il approuve. Allez voir le dernier James Gray donc, au cinéma. Je vais encore te laisser la parole, Gob, pour que tu puisses parler d'un autre film que tu as vu, Charlotte.
Oui, alors Charlotte, c'est un film d'animation de Éric Varin. C'est l'histoire d'une... En fait, c'est assez proche, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait eu le film Yosep. Sur l'histoire d'un dessinateur français dont le meilleur ami était mort dans les camps. Et donc là, en fait, c'est l'histoire d'une dessinatrice juive qui va se retrouver en camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, et elle va dessiner, en fait. À l'intérieur des camps, elle va laisser toute une série d'œuvres. Et en fait, le film alterne c'est un film d'animation qui alterne l'histoire donc de cette jeune femme avec des animations à partir de ses dessins. Et donc c'est très beau.
Ah ouais, ce sont les dessins originaux.
Oui, des dessins originaux. Mmh. C'était un peu le même procédé dans Yosep. Et donc voilà, le film est très beau, très émouvant. Malheureusement, on sait dès le départ comment ça va finir. Mais le film est très émouvant et très réussi.
Et bien que des bons films.
Et donc, je vais enchaîner. Je m'excuse. Je vais garder la parole encore quelques instants sur un film espagnol. Alors là, vraiment, je vous le recommande.
Ah oui, donc un autre film, Les Repentis. Voilà,
c'est un film qui s'appelle Les Repentis. C'est un film d'un cinéaste basque qui s'appelle Isiar Bolen, qui a déjà quelques années de réalisateur derrière lui. Alors c'est une histoire vraie. C'est un commando de l'ETA qui exécute dans les années, au début des années 80, un dirigeant de, enfin, un dirigeant de, la, de début des années 90, un dirigeant du parti socialiste espagnol, alors au pouvoir, parce que le TA n'arrivait pas à s'entendre avec les dirigeants, s'estimait trahi par eux après la chute du franquisme. Et en fait, l'État espagnol, par la suite, va mettre en place un système de, autour de la repentance où le but est de permettre aux gens qui ont été touchés, notamment les familles des gens qui ont été victimes des attentats et des crimes de l'ETA, de rencontrer les assassins. Et donc, et une rencontre va être organisée entre les assassins de cet homme politique et son épouse, qui est jouée par Marta Reyes, qui est une actrice extraordinaire. Elle porte le film, elle est extraordinaire, cette actrice. Et donc, le film va montrer, donc, petit à petit, la manière dont ces entretiens vont se mettre en place. Et donc, il y a des scènes, il y a deux ou trois scènes d'entretien entre la femme de cet homme assassiné et ses bourreaux qui sont extraordinaires d'intensité. Et c'est vraiment un très beau film sur la repentance, sur le pardon. Est-ce que le pardon est possible? Est-ce que la repentance est possible? Jusqu'à un final extrêmement étonnant que je ne vous dévoilerai pas. Mais voilà, moi, c'est vraiment, j'ai été saisi par la qualité du scénario. Claude, toi qui es aussi sensible au scénario des films, le film est remarquablement écrit. Et on pourrait croire que ça pourrait être un espèce de dispositif comme ça, mais pas du tout. Pas du tout. Les acteurs sont tellement forts, tellement intense que tout ça passe et c'est pareil quoi, aucun effet de pathos mais c'est pareil, à la fin je vous mets au défi de ne pas avoir les larmes aux yeux à la fin de ce film. Alors je veux dire, j'ai beaucoup pleuré, vous voyez, ces derniers temps au cinéma, mais c'est bien.
Oui, effectivement. Oui,
merci,
Claude.
Merci non mais merci.
Oui, effectivement, tu nous listes des bons films, en tout cas tu nous donnes envie d'aller les voir.
Trop de bons films.
Et tu parles de larmes, on va enchaîner avec film qu'on a vu tous les trois, où j'ai énormément pleuré. Donc c'est le deuxième film de Luca Dont, Close, qui est donc encore à l'affiche. Et donc, alors ce film, donc pour ceux qui se rappellent, Luca Dont est un réalisateur belge et son précédent film c'était Girl,
Caméra d'or,
qui a reçu la Caméra d'or, un film qui est sorti.
Il est wallon ou flamand?
Ah, je sais pas, j'ai pas vérifié.
Je crois qu'il est flamand. Je crois.
Donc son précédent film qui était sorti en 2018, et là on est en 2022 et c'est son deuxième long métrage, donc Close. Et je me permets de commencer.
Oui, vas-y, c'est
du coup j'enchaîne. Et donc ce film pour moi nous raconte comment notre société qui est hétéronormative n'accepte pas l'amitié fusionnelle entre deux jeunes garçons. Et j'ai été extrêmement touchée par cette histoire que Luca Dont nous raconte. On dit Dont ou vous dites Dont ou Don?
Dont.
Luca Dont.
Dont. On dit Luca Dont. Ouais.
On prononce le T à la fin. Et donc Luca Dont dénonce l'homophobie que malheureusement on retrouve dès le plus jeune âge. Alors que voilà, cette amitié entre ces deux jeunes garçons, il n'y a rien de sexuel. C'est une amitié fusionnelle et ces deux jeunes garçons qui passent énormément de temps ensemble et malheureusement c'est le regard des autres qui va fragiliser cette relation.
Est-ce que je peux t'interrompre juste?
Oui, bien sûr.
Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Céline, dans l'interprétation. Oui. Moi je pense plutôt que ce qu'il dit dans le film, c'est que justement un des deux garçons, lui, a le comment dire, une attirance homosexuelle pour l'autre naissante. Que l'autre, qui lui est beaucoup plus sensible, comme tu disais, à la pression sociale autour de lui, le repousse à un moment donné. Et tout le nœud dramatique du film va s'articuler autour de ce refus, de cette manière de le repousser, parce que ce qui, pour un, n'est pas si dramatique que ça, entre guillemets, devient un drame absolu et total pour l'autre. Mmh. Et on sait que ce qui va arriver arrive à cause de ça. Enfin, pour moi, je fais vraiment cette interprétation. Mais ce qui n'empêche pas que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le thème du film, qui est l'homophobie, qui arrive très, très tôt. Et donc, mais je pense quand même que pour moi, au niveau de l'interprétation du film et de tout ce qui se passe après, cet élément est quand même pour moi extrêmement important. Parce que je pense vraiment qu'il y a un début d'attirance et que le réalisateur nous le montre tel quel. Nous le fait comprendre tel quel. Enfin, pour moi, vraiment, je le vois comme ça.
Après, je trouve que c'est pas très grave s'il y a pas d'attirance sexuelle.
Non,
en fait,
ça l'aurait pas été. Si... Mais je pense que le nœud dramatique du film, ce qui va malheureusement arriver, naît de fait que l'un n'est pas malheureusement sur la même longueur d'onde que l'autre, voilà.
Oui, mais j'ai la sensation que c'est à cause du regard des autres, parce que,
Non, le regard des autres, je suis d'accord avec toi. Je pense que le regard des autres est malheureusement important.
Qu'il fuit cette relation parce que pour lui, il n'a pas d'attirance sexuelle pour son ami. Je crois pas.
Pour moi, ça n'enlève rien à.
Alors, moi aussi, je pense aussi, voilà.
Je pense que ça n'enlève rien à la thématique du
effectivement,
film.
Effectivement, voilà, vraiment.
C'est une question d'interprétation.
Effectivement, mais Et de ce que j'ai pu lire, ce serait même un peu autobiographique.
D'accord, peut-être.
Inspiré de ce que lui, de sa propre expérience plus jeune. Et mais c'est pas grave. Effectivement, ça n'enlève rien. Effectivement, ce qui est dénoncé
dans le film.
Voilà, tout à fait. Et je trouve que Lucas Hadon, en tout cas, le raconte et le filme avec beaucoup de simplicité, de bienveillance. Je trouve que c'est très beau, enfin cette amitié entre ces deux jeunes garçons et dont en plus c'est le premier rôle, enfin pour les deux garçons c'est leur premier rôle au cinéma et je trouve que c'est même une très belle découverte là celui qui interprète le rôle de Léo, Eden Dambrin, qui a beaucoup de potentiel, je trouve. Il est très très doué. Peut-être aussi très bien dirigé. Et par contre, je trouve que ce qui est dur à regarder, je trouve que c'est tout le poids, moi, ce que j'ai ressenti, tout le poids de la culpabilité portée par cet enfant seul. Je le trouve très seul, malgré son entourage, une famille bienveillante, mais je le trouve quand même très seul, comment il est filmé. Et malgré la présence de la famille, mais comme si l'enfant devait faire seul son introspection, et c'est peut-être que ce qu'a ressenti le réalisateur, vu que c'est un vécu personnel, une adaptation de son vécu personnel, c'est peut-être ce qu'a ressenti. Mais cet enfant, j'ai trouvé très seul, et je trouvais ça très très dur, hein, car il est très jeune, ils ont 12 ou 13 ans, je sais plus. Et ils rentrent au collège, donc
ils sont très jeunes, au
moins 12 ans. Mmh. Et il y a des scènes qui m'ont aussi interrogée. Alors, je sais pas, vous allez me dire, de toute façon, on a un petit peu de temps. Les scènes de travail dans le champ m'ont un peu interrogée en fait en deuxième partie du film. C'était très étrange parce que. Ça sert à l'introspection de l'enfant, mais du coup c'est scènes où il travaille, il aide sa famille dans les champs et
j'ai un avis sur la question, Céline,
et je trouve ça très du coup il travaille pendant son temps libre et c'est ce qui est bon et j'espère que les enfants ont d'autres solutions pour se construire que de se plonger dans un travail manuel et pénible. Moi, je l'ai ressenti très dur.
J'ai un avis sur la question qui est que, rappelle-toi de Girl. Girl, c'est ce jeune homme qui veut absolument devenir une femme. Il est danseur. Et dans Girl, il y a aussi de très longues scènes où il danse, où il s'abîme le corps, où il pousse son corps à la limite et tout. Et c'est pareil, on est dans le même schéma, c'est-à-dire que dans Girl, il pousse son corps à la limite parce qu'il s'impose ça pour par rapport à cette, cet acte de changement de sexe et tout, mm-hmm. qui l'accouche dans la douleur et il existe à travers cette douleur parce qu'il se sent aussi coupable de ne pas réussir ce qu'il veut à ce niveau-là. Et là, moi, je pense que dans Close, on est exactement dans la même thématique.
Oui.
C'est-à-dire qu'il s'oublie dans le... Et c'est pour ça qu'il nous montre ces scènes à répétition, ces scènes physiques, ces scènes de travail physique et tout, parce que, comme tu disais, cette culpabilité qu'il porte seul, c'est quelque part comme s'il l'a sublimé dans cet effort physique. Mm-hmm. Alors après, ça peut être sujet à discussion et tout, mais je pense que Don't nous refait le même schéma que dans Girl, et je pense mm-hmm. que c'est quelque chose qui, lui, l'interroge en tant que réalisateur et en tant qu'homme. Il est dans cette thématique de quand on est dans la culpabilité ou quand on est dans la douleur ou quand on est dans quelque...
On le voit aussi dans le sport aussi, parce qu'il pratique... Oui. J'ai oublié le nom du sport qu'il pratique.
Oui, le hockey.
Le hockey, pardon. Mm. Et on le voit comment il prend des coups, où il y va, il travaille.
Il est dans cette thématique. Effectivement,
mais je trouve que dans le travail, dans les champs, c'est le travail de ses parents. Et je trouve que... Dans le droit du travail pour les enfants, je trouve ça un peu limite.
Lui, je pense que c'est sa manière, lui, de montrer des êtres en souffrance qui, dans ces deux films, effectivement, les êtres en souffrance mm-hmm. mettent leur corps dans le dur.
Oui, mais je pense qu'il aurait pu le montrer.
Par rapport à leur souffrance, c'est une manière de...
Il aurait pu le montrer avec des activités, Claude, qui concernent les enfants. Mais juste, je voulais dire quand même que c'était... Bon, ouais, mais... Juste pour quand même finir, que je pense qu'il aurait pu au moins trouver d'autres activités qui concernent les enfants, pas les adultes. Mais en tout cas, c'est vraiment important ce que dénonce le réalisateur et que c'est très violent. Et qu'il a reçu quand même le Grand Prix au Festival de Cannes et que je trouvais que c'était très mérité.
Bon, vous avez à peu près tout dit. J'ajouterais simplement... Je reprends la formule des psys du Festival d'Angers qui disent: au cinéma, il y a ce qui se voit, ce qui se dit et ce qui se cache. Et ici, ce qui est important, c'est ce qui se cache. Et dans ce qui se cache, il y a une libre interprétation. Je suis assez d'accord avec ta démonstration sur l'homosexualité, que l'on voit absolument pas dans le film. Bon. Le refus, on ne le voit pas non plus. C'est fait avec beaucoup de subtilité, c'est-à-dire que ce film est quand même... C'est filmé avec beaucoup de retenue, avec une sensibilité et intelligence. Et surtout, il utilise beaucoup les ellipses, notamment dans la disparition de l'enfant. On le voit pas, on sait pas ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est vrai, c'est suggéré. Et moi, je trouve que justement, on n'est pas dans le pathos, c'est très adroit. Il y a une mise en scène qui est quand même... Alors, je suis d'accord avec ce que tu me disais dans la voiture, et que tu vas dire, c'est quand même une mise en scène d'une très grande subtilité. Très, très grande subtilité. Tu disais que...
Moi, j'avais quand même un tout petit bémol, parce qu'on a encore d'autres films à parler, donc on ne va pas non plus passer... Mais... Moi, il y a un tout petit bémol, c'est ce que je te disais hors micro, Claude. Moi, je trouve quand même que c'est trop esthétisant par moments. C'est vrai, c'est émouvant, c'est vrai. Mais il tire, à mon avis, hein, il tire un petit peu trop sur la corde de l'esthétisme par moments. Tu as ces scènes où il court dans les champs, les deux gamins.
La première partie, beaucoup.
On a quand même droit beaucoup à une espèce d'innocence sur fond de coucher de soleil. On est quand même à la limite du chromo de roman photo par moments. Voilà. Et moi, ça m'a gêné parce que je trouve, comme tu disais, Céline, et comme tu disais, Claude, je pense que le film est vraiment... fort et subtil, et qui a une vraie sensibilité, qui a des moments, comme tu disais, c'est vrai, à la fin, comment ne pas pleurer ? C'est tellement fort, c'est tellement... En plus, Emily Deakin, on n'a pas parlé d'Emily Deakin, mais quelle actrice Emily Deakin. Et donc, le film pouvait se suffire à lui-même à ce niveau-là, je pense. Et pourquoi
rajouter des scènes chromo, des scènes à l'esthétique un peu dégoulinante. Voilà, moi je pense que ça nuit plus au film qu'autre chose et ça lui fait un peu, ça le fait un peu baisser en niveau. Et on a vu tellement de films magnifiques depuis le début de l'année, je peux vous dire qu'on va s'amuser pour le classement de fin d'année. Et voilà, donc moi, pour moi, c'est un petit peu dommage qu'il se laisse un petit peu trop aller par moment à faire du cinéma un petit peu trop esthétisant et léché. Voilà, mais c'est mon seul petit bémol sur le film.
Sur les paysages, les couchers de soleil, je pensais à ce metteur en scène américain, comment il s'appelle
Terrence Malick.
Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est vrai. Mais il l'a dit, Donte. Il l'a dit. Je l'ai vu dans une interview.
Il l'a dit. Il
admire énormément Terrence Malick.
Ah, d'accord, il a influencé. Ouais. Oh, d'accord. Eh bien, je vous propose du coup faire une petite pause musicale en écoutant donc un morceau de la bande originale du film Close qui a été composé par Valentin Adjadj et on se retrouve juste après. vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM et nous arrivons sur notre dernière partie d'émission. Et tant mieux parce qu'en fait, il nous reste plus grand chose à parler puisque, eh bien, c'est Claude. Je vais laisser la parole à Claude parce que tu souhaitais parler de la conspiration du Caire que tu as eu la chance de voir.
Oui, pour moi, la conspiration du Caire, en fait, on assiste à quoi ? On assiste à l'élection de l'imam, je crois que c'est en Égypte.
Oui, je crois que c'est en Égypte.
De l'imam, qui est un poste suprême. Et on voit tous les jeux politiques qu'il peut y avoir. D'ailleurs, pour la papauté, c'est pareil. Ce sont uniquement des jeux politiques. Donc on voit ces jeux politiques. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est mené comme une enquête policière. En fait, c'est mené comme une enquête policière. Alors, on aurait pu rester relativement plat, mais il y a une mise en scène qui est somptueuse. Il sait, ce garçon, il sait absolument filmer. Il fait des plans extraordinaires. Des plans, à un moment, on voit il y a plusieurs étages, et on voit des imams qui se déplacent dans un sens, un peut mettre le premier étage, les autres, deuxième étage, et dans l'autre sens. C'est suggéré, on se dit, tiens, il y a plusieurs courants. C'est...
Tu peux nous rappeler le nom du réalisateur
Je suis en train de chercher. C'est un garçon qui vit qui est suédois, d'ailleurs, et qui vit en Suède depuis très longtemps. Je suis en train de chercher son nom. Et il a un sens.
C'est Dmytro Sukolicki. Dmytro Sukolicki. Pardon, je ne vais pas y arriver. Dmytro Sukolicki.
Oui. Son père avait déjà émigré en Suède avant lui. Et lui est né en Suède. Il ne vient pas d'Égypte, il est né en Suède, le metteur en scène. Donc, les luttes d'influence sont extrêmement bien mises en exergue, notamment de par cette enquête policière. Mais, oui, alors là, il n'y a pas de la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Je peux vous dire que ça fonctionne à fond. Mais ce film, pour moi, c'est avant tout une très grande mise en scène. Moi, ça aurait été récompensé à Cannes. J'aurais pas crié au loup. Hein.
Ah oui, ça aurait été mérité.
Ah oui.
Il était à Cannes.
Oui, à Cannes, oui, à la quinzaine.
Ouais, ouais. Il n'a rien eu. Bon.
Claude, est-ce que tu peux nous toucher un petit mot, puisque c'est l'actualité, puisque le film oui. sort aujourd'hui du film de notre ami Roche Dizem. Puisque tu l'as vu, toi, tu l'avais
oui,
vu,
je l'ai vu,
tu l'avais vu en festival.
Oui, je l'ai vu en festival. Moi, je suis partagé pour ce film. C'est son histoire personnelle. Et ce qui me gêne...
Redis le titre du film.
Les miens.
Les miens.
Il décrit sa famille. Bon. Et les miens, c'est son histoire avec sa famille. Alors, comment vit une famille où il y a un mec dans la famille qui est célèbre, les autres y bossent, et cette famille est remise en cause, enfin les liens de cette famille sont remis en cause par l'AVC d'un de ses frères. Et à partir du moment où il a fait cet AVC, il envoie ses quatre vérités à tout le monde. Bon. Ça peut être très intéressant. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que Roche Dizaine, il joue son propre rôle. C'est-à-dire qu'il ne met pas de distance entre lui et l'acteur. Et ça, moi, ça me gêne énormément. C'est pour ça que je ne suis pas... Puis alors... Il y a des scènes qui ont été écrites le matin avec, comment elle s'appelle, Maïwenn, au bistrot, et tournées l'après-midi. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même pas trop...
C'est intéressant ce que tu dis, Claude, parce que bon, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai lu effectivement qu'il avait travaillé sur le scénario avec Maïwenn,
Et moi, je sais que j'ai un problème avec les films de Mai Wen, généralement, justement, au niveau de leur écriture. Et je suis très loin d'être convaincu par sa manière d'écrire. Je sais qu'elle a des grands admirateurs. Il y a des grands admirateurs de Police.
Police a été réécrit par la production.
De Monroy.
Ouais, au montage.
Oui, je pense qu'elle a quand même un gros problème d'écriture. Et donc, oui, c'est possible que qu'il n'a peut-être pas eu la meilleure idée du monde en allant la chercher pour travailler avec lui.
Je ne sais pas quelles sont ses relations avec Mai Wen, mais on peut supposer pas mal.
Oh, quoi ?
Non, mais c'est vrai.
Je te laisse terminer.
Ça ne pose pas de problème, moi, c'est pas le souci. Mais assez beaucoup impliqué dans ce film.
Parce que c'est une proche.
Tant mieux si elle s'implique dans les films sur lesquels elle travaille.
Ouais.
Après, on peut juger de son travail.
Oui,
je pense qu'on ne peut pas remettre en question son implication. Vu qu'effectivement, ces films à elle sont toujours très autobiographiques aussi, je pense qu'elle aime parler d'elle aussi, des gens autour d'elle. Louis Garrel, c'est toute une tendance d'un certain cinéma français aussi.
Il n'y a pas de distance dans ces films. Il n'y a pas de distance. C'est très... très ennuyant de tenir son propre rôle. Je ne sais pas comment il a pu faire, être devant la caméra, derrière la caméra.
Et tu penses que ça ne fonctionne pas ?
Pour moi, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Il aurait pris un acteur pour faire ça, ça aurait été crédible. Parce que là, c'est pas trop crédible.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Mais allez le voir si vous avez du temps.
Il sort aujourd'hui. Donc,
effectivement, on a un peu de temps.
Il sort aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un petit peu de temps. Et puis, tu ne l'as pas dit, mais dans l'autre rôle principal, il y a cet acteur formidable, que moi j'adore, et qui a eu le César il y a 2 ans. Il le méritait tellement. Enfin, du reste, ils l'ont eu l'un après l'autre, comme quoi ils sont indissociables. Roche Dizem et Samy Bouajila, qui ont commencé en même temps au cinéma, qui sont ensemble dans son film. Et Samy Bouajila, quel acteur extraordinaire. Moi, j'adore cet acteur. Et je pense qu'il doit être... les échos un peu que j'ai eu, c'est qu'il était formidable, comme d'habitude, dans le film. Donc, c'était plutôt lui qui avait le rôle le plus intéressant, dans l'histoire. Ouais, donc, pour les acteurs.
Allez le voir pour les acteurs.
Pour les acteurs. On va aussi voir les films pour les acteurs.
Oui. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il nous reste encore quelques minutes.
Je veux bien dire un petit mot d'un film dont je n'avais pas forcément prévu de parler parce qu'il a quitté l'affiche, mais que moi j'ai trouvé très intéressant. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'un film d'horreur, donc c'est pour maintenant. C'est un film qui s'appelle X. C'est un réalisateur américain. C'est intéressant parce que ça va permettre de parler une nouvelle fois du cinéma indépendant américain et des affres du cinéma indépendant américain. Donc c'est un réalisateur qui s'appelle T. West, qui a beaucoup de talent, qui a réalisé trois films qu'on peut classer dans la catégorie horreur, dont un film vraiment formidable qui s'appelle The Innkeeper. House of the Devil aussi, qui était un film vraiment très très réussi. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait ses films dans des conditions complètement indépendantes et qui généralement donc a été plutôt distribué sur les plateformes en France qu'il arrive à être distribué au cinéma aux États-Unis. Et donc là, c'est le premier film qui sort en salle en France. Donc il a eu un parcours malheureusement très rapide en salle, mais c'est un film d'horreur super intéressant parce que s'il y a parmi vous des fans de Massacre à la tronçonneuse, l'original de Tobe Hooper en 1974, en fait c'est une relecture de Massacre à la tronçonneuse, et en même temps, parce que ça se passe au Texas dans les années 70, il y a une série de meurtres, ça se passe chez les rednecks américains bas du front. Mais là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est des jeunes qui atterrissent et qui veulent faire tourner un porno. Et en fait, il faut savoir que dans les années 70, c'est les années de Gorge Profonde, de films comme ça, et c'est les débuts en fait d'un certain porno arty, si on peut dire, et des jeunes réalisateurs qui pensaient pouvoir faire carrière dans le cinéma, qui pensaient pouvoir réussir dans le cinéma et prouver qu'ils étaient de bons réalisateurs en tournant des pornos fauchés, parce que c'était le seul truc qu'ils pouvaient faire avec très peu d'argent. Donc là, ils partent tourner ce porno dans une ferme isolée. Et dans cette ferme, il y a deux personnes très âgées, et dont une femme qui va, dont la libido va se réveiller d'une manière assez étonnante. Hein, si vous avez l'occasion de voir le film, je ne vais pas vous raconter. Au contact de ces jeunes qui viennent tourner ce porno. Voilà, et ce film vraiment est très réussi. Il y a tous les codes du cinéma d'horreur. Notamment dans le dernier tiers du film, mais c'est quelqu'un, il étire ses séquences, il y a un scope magnifique, il arrive à faire des scènes très belles avec très peu de moyens. C'est des acteurs tous inconnus mais qui sont tous très très bons, et en plus il sème plein de petits indices de scénario. Je vous dis ça parce qu'en fait c'est conçu comme une trilogie. Il y aura deux autres films derrière qu'il a déjà tournés qui vont sortir, et je pense que le film va s'étoffer, être de plus en plus intéressant. Ça va être de plus en plus intéressant au fur et à mesure de la trilogie. Mais c'est un cinéaste à suivre. Et
mais pourquoi X ?
Le film s'appelle X parce que justement,
c'est le
tournage d'un porno amateur. Et il y a plein de considérations sur la libération sexuelle, sur le sexe chez les personnes âgées. Il affronte ça de façon très frontale. C'est choquant par moments. Ça nous interpelle, ça nous dérange. Mais le cinéma est aussi fait pour ça. Et donc moi, je ne saurais que trop vous conseiller, mais c'est à réserver à un public averti.
Alors, je cherchais, je ne sais plus quoi, sur Internet cet après-midi, et je suis tombé sur ce film, mais il me semble qu'il portait un autre titre.
Ah non.
C'est If.
Ah oui, peut-être, je sais pas, moi je le...
Moi j'ai que X. Toi tu as vu If, hein.
J'ai pas vu sous le nom de If.
Moi. Ah oui, peut-être.
Moi je le vois sur
oui,
X.
Oui, tu l'as bien sous le nom de X.
Ouais. X, T-West. Ouais, oui. T-West. Oui, X. Merci Claude pour ton intervention. Ah mon pauvre.
Bon, en tout cas, allez au cinéma.
Oui,
on peut vous dire que ça.
Mais soignez-vous.
Couvrez-vous.
Et faites attention parce que je peux vous dire que dans certaines salles, il y a ils mettent des ventilations. Et je peux vous dire que quelqu'un qui m'est cher a attrapé une grosse conjonctivite au cinéma avec la ventilation.
Voilà, ouais.
Donc,
Oui.
faites attention, essayez quand même de ne pas attraper mal en allant voir des films, ce serait quand même dommage. Voilà.
Effectivement, protégez-vous dans toutes les conditions, toutes les situations. Eh bien, merci beaucoup. On arrive donc à la fin de cette émission. Je fais un petit coucou à Fabien, Emmanuel, Michel, qui peut-être nous écoute en ce moment.
On les embrasse.
On les embrasse très fort. Surtout, chers auditeuristes, restez sur Radio Campus Orléans. L'émission de cinéma, donc, c'est tous les mercredis de 19h à 20h. Donc mercredi prochain, c'est l'autre équipe, donc avec Vincent, Julien, Arnaud, qui animeront l'émission. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, toujours mercredi, 19h-20h. Je vous souhaite une très bonne soirée et continuez à aller au cinéma.
Et allez voir les films avec des programmations parfois compliquées, mais voilà, essayez de vous débrouiller dans la jungle des programmations compliquées. Et voilà, c'est comme on dit, abondance de biens ne nuit pas, mais des fois ça nuit quand même un petit peu.
Oui, il faut faire des choix, mais on vous fait confiance. Eh bien, merci encore et
bye bye
et à bientôt.
Salut à tous et à toutes.